Alors nous allons aller dans 2 Timothée au chapitre 1, versets 6 à 12. Et justement, nous parlons de choses très sérieuses, parlons de choses difficiles, mais nous en parlons dans la foi. Et donc c'est pas pour nous lamenter, nous recroqueviller sur nous, mais c'est pour glorifier notre Seigneur. Et nous allons voir que dans ce passage où il est question de la vie et l'immortalité par l'Évangile, eh bien l'apôtre a un ton d'exhortation et de ranimer la flamme. Ranimer la flamme du don. Voilà, nous lisons. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance ou à rien, dans d'autres versions, ou encore qui a détruit la mort, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Oui, il est question d'imposition des mains par l'apôtre pour recevoir un don de Dieu. Alors, c'est assez étrange puisque Dieu donne lui-même. Mais ici, il est certainement question du ministère que Timothée a reçu et qui a été confirmé par l'imposition des mains de l'apôtre, mais aussi, dans un autre passage, des anciens, pour indiquer qu'il recevait le mandat de Dieu, le don pour prendre soin de l'Église du Seigneur. Alors, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Il est question de ranimer le don de Dieu, preuve qu'il peut s'atténuer, s'affaiblir, s'endormir. Et le but de l'apôtre, c'est de le raviver. Et pour cela, ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte du Seigneur lui-même. Et aussi de son serviteur. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Son serviteur, donc, qui est en prison actuellement, au moment où il écrit cette lettre. Donc, n'aie pas honte, ni du Seigneur, ni de moi son serviteur, qui suis prisonnier. Pas une situation glorieuse. Et justement, l'apôtre demande à Timothée de ne pas en avoir honte. Mais au contraire, plus que de ne pas en avoir honte, partager avec l'apôtre la souffrance inhérente au témoignage de l'Évangile. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et il répétera plus loin, à cause de ces choses, je souffre, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. L'apôtre ne demande rien à ce disciple qu'il n'expérimente lui-même. Et nous le verrons encore, il n'a pas honte de l'Évangile et en conséquence, il souffre pour et à cause de l'Évangile. Ce texte, ce commentaire du texte de l'apôtre. Alors, ce qu'on sent, c'est que il y a une grande vigueur qui soutient cette exhortation. On ressent une volonté tenace de la part de l'apôtre qui permettra quoi ? Qui permettra d'aller jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il termine. Je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Jusqu'au bout. Et c'est ce bout qui est important. C'est d'arriver au bout, d'arriver à ce jour-là. Quel jour ? Si on tient compte du paragraphe lui-même, ou est-ce qu'on peut trouver quelque chose à la référence à ce jour-là ? Je ne le vois de référence que au jour de l'immortalité. La vie est l'immortalité par l'Évangile. Et Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, l'apôtre, en fait, constamment dans toutes ses épîtres, dans tout son enseignement, il tourne nos cœurs vers ce jour-là. Ce jour-là qu'il appelle dans l'Épître aux Philippiens le jour de Christ, chapitre 1, versets 9 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà l'intelligence spirituelle, l'engagement dans les choses de Dieu pour être pur et irréprochable pour le jour de Christ. C'est là qu'il va falloir être identifiable comme étant un saint dans le Seigneur. Ce jour-là, au chapitre 3, toujours de Philippiens, il y aura une transformation totale. Versets 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà ce qui se passera ce jour-là. Jour de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour que Dieu prépare lui-même, c'est dans son plan, dans son projet, dans la première à Timothée chapitre 6 versets 13 à 16. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est ce Dieu qui manifestera le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, qui seul possède l'immortalité. Mais voilà que dans sa deuxième épître, l'apôtre nous dit que Dieu est venu vers nous avec son immortalité. Il est venu mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'Évangile, c'est le cœur de l'exhortation de l'apôtre. Et c'est cette vérité de l'Évangile qui justifie tous les engagements, toutes les audaces, toutes les souffrances, mais qui souvent nous trouve dans le retrait, l'hésitation, la honte. D'où la nécessité pour l'apôtre d'exhorter à sortir de cette honte. Mais on peut se poser quand même la question, en quoi, si l'Évangile propose la vie et l'immortalité, en quoi peut-il générer la honte? L'immortalité de l'âme n'est-il pas un thème partagé par les nombreux peuples de la terre? Les gens aspirent à l'immortalité, ils l'ont conçue d'une certaine façon. La vie et l'immortalité sont concevables à l'esprit humain, puisqu'il y a lui-même pensé. Il affirme dans différentes philosophies qu'il y a une immortalité. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur la pensée de l'homme, la pensée de l'éternité. Hein, l'Ecclésiaste l'affirme. Le problème, c'est qu'ici, dans la foi chrétienne, la vie et l'immortalité sont mis en évidence par l'Évangile. L'Évangile est la solution de Dieu. Et l'Évangile est le problème de l'homme. D'où une possible honte à le défendre. Et l'insistance de l'apôtre pour que nous n'en ayons pas honte. Et lui-même se donne en exemple, ici même, mais dans son épître aux Romains, là c'est en introduction. Après avoir établi son ministère, il affirme, chapitre 1, versets 16 et 17, « Ne pas avoir honte de l'Évangile, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans ce dernier passage, comme dans notre paragraphe de référence, nous trouvons que Dieu nous sauve par l'Évangile. Puissance de Dieu pour le salut. Chaque fois qu'il est question de l'Évangile, il est question de la puissance de Dieu à l'œuvre pour nous sauver. C'est une affirmation, un enseignement qui parcourt toutes les lettres des apôtres. Et cette affirmation de la puissance de l'Évangile pour nous sauver, elle est catégorique et on peut dire qu'elle a un double aspect. Le premier, c'est que Dieu nous sauve parfaitement par l'Évangile. Si quelqu'un est sauvé par l'Évangile, il n'y a aucun doute à son salut. Il est sauvé parfaitement. Et secondement, Dieu ne nous sauve que par l'Évangile. Seul l'Évangile met en évidence la vie et l'immortalité, le salut de nos âmes. Dans Romains 1, 17, est défini l'action puissante et efficace de Dieu pour sauver. C'est en quelque sorte l'activation de la justice en faveur de celui qui croit à l'Évangile. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice que Dieu impute et la foi qui se trouve dans le cœur de l'homme à l'ouïe de l'Évangile. Pourquoi l'intervention de la justice pour sauver l'homme ? Ben parce qu'en face, il y a le péché de l'homme. C'est toujours Paul qui présentera très simplement dans sa première épître, chapitre 1, verset 15. Il présente les choses très simplement en disant « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit-il. » Salut de par l'Évangile, être sauvé par l'Évangile, c'est être sauvé du péché. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Alors, bien sûr que là, ça pose un gros problème à beaucoup d'âmes, c'est que il faut d'abord qu'ils soient enseignés au sujet de cette condition d'homme pécheur. Qu'est-ce que c'est que leur vie d'homme pécheur ? Pourquoi sont-ils des pécheurs ? Comment peuvent-ils repérer le fait qu'ils sont des pécheurs devant Dieu ? C'est l'objet de l'enseignement de la loi en particulier. Mais il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui peut l'avertir et qui peut lui permettre d'identifier cette condition de pécheur, même pour le païen. Et donc, il faut affirmer aux hommes, effectivement, qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés et que l'Évangile les sauve du péché. Donc, Dieu nous a sauvés du péché, comment ? Par la venue de Jésus-Christ dans le monde. Ce que confirme donc notre premier passage, les versets 9 à 11, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à rien et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est la venue de Jésus-Christ dans le monde qui a permis l'Évangile et le salut du pécheur. Et là, notre Sauveur, c'est donc bien Jésus-Christ. Laissez donc de côté, nous dit en quelque sorte l'apôtre, vos œuvres, non à cause de nos œuvres. Laissez de côté vos œuvres, votre salut n'a pas son origine dans vos œuvres humaines. Il vient de la grâce. Alors ici, il y a une expression de l'apôtre qui peut nous plonger dans toutes sortes de, on peut dire dans un abîme de réflexion, puisqu'il dit, non selon son propre dessein, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui maintenant a été manifestée par sa venue. Mais quand on pense au sens profond de cette phrase, alors, nous sommes dans le temps, nous sommes dans l'espace-temps. Hein. Mais apparemment, avant l'espace-temps, il y avait les temps éternels. Mais avant les temps éternels, il y avait le cœur de Dieu et de Jésus-Christ. Et il y avait la grâce qui était déjà active avant même que le monde soit créé. D'ailleurs, plusieurs fois dans l'Évangile et dans les Épîtres, il est question de ce qui était avant la fondation du monde. Avant les temps éternels, avant la fondation du monde, il y avait Dieu. Et dans le cœur de Dieu, il y avait la grâce. Déjà à ce moment-là. D'ailleurs, Jésus-Christ préparait comme un agneau immolé avant la fondation du monde aussi. Donc c'est cette grâce de Dieu, cet amour gratuit, qui était déjà présente à l'œuvre active en Dieu, avant qu'il ne crée le monde, c'est cette grâce qui se manifeste au moment de l'incarnation du Fils de Dieu, dans sa venue sur la terre. C'est de là que vient votre salut et votre vocation. Votre vocation, voilà, qui intervient ici aussi, nous a adressé une sainte vocation, un appel pour une totale réorientation de votre vie vers la sainteté et vers la gloire, alors que jusque-là, votre vie d'homme pécheur était orientée vers la corruption et donc la mort, vers la perdition. Et tout cela est apparu lorsque Jésus-Christ a paru. Mais qu'il soit paru, c'est une chose. Qu'il soit mort, en est une autre. Mais je dis, non, ce n'est pas une autre chose qu'il soit mort. En fait, c'est la raison de sa venue. C'est pour cela que je suis venu, dit-il. La mort de Christ, c'est la raison de son incarnation. C'est pourquoi il a été incarné. Pour que la grâce de Dieu se manifeste dans sa mort. La grâce éternelle a pris la forme de la mort pour les pécheurs. Le pécheur meurt. Eh bien, le Christ meurt aussi. Là est l'Évangile. Le Christ meurt aussi. Il meurt comme les pécheurs, alors qu'il n'est pas pécheur. Cet Évangile, il se prêche. L'apôtre dit ici qu'il a été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Prédicateur, la prédication de l'Évangile. Nous retrouvons cela dans la première épître aux Corinthiens, dans l'introduction au chapitre 1, versets 17 à 25. Et là, on peut encore mieux pénétrer dans ce mystère de la honte que peut véhiculer le message de l'Évangile, puisqu'il vient confronter les pensées humaines de tous bords. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Sagesse de Dieu que cette croix. Là où le juste paye pour les injustes. Christ crucifié. Le moment où la justice atteint sa perfection pour que le péché soit couvert. Alors le mot qui m'était venu à l'esprit, c'était absorbé, pour que le péché soit absorbé dans la mort du Fils de Dieu. Et ainsi que la mort elle-même soit effacée, réduite à rien. Tout est accompli. La vie du juste s'est donnée à l'homme pécheur. On peut dire le vivant s'est donné à celui qui est mort. Et là, le sang a pu jaillir du corps du supplicié et venir effacer les péchés du croyant. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais par un seul sacrifice, le Seigneur a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Le sang de Christ, c'est ça la mort efficace. Et derrière cette mort-là, au-delà de cette mort, mais là encore, je ne pense pas qu'il faille dire au-delà, mais dans cette mort-là, il y a la vie du Père qui est manifestée, la vie éternelle, la vraie vie et l'immortalité qui l'emporte sur le péché et la mort. La vie de Dieu est là, dans la mort de Christ, qui par sa mort a délivré tous ceux qui était tenu dans l'esclavage par la peur de la mort, justement. La vie de Dieu est là qui rachète l'homme de tout mal et qui le rachète complètement. Même le corps qui est promis à la résurrection. Et c'est là que le message de l'Évangile tranche avec toutes les pensées, les philosophies, les religions terrestres, J'ai commencé par évoquer l'immortalité de l'âme, qui est un concept commun parmi les peuples. Mais l'Évangile vient réellement bousculer cette idée. Parce que la résurrection de Christ, la vie qui est manifestée par la croix, c'est une vie nouvelle et définitivement exempt du péché et dans les qui se développe dans les perfections de Dieu. Il me venait à l'esprit que les peuples qui croient aux esprits des ancêtres ou qui simplement croient à la veille permanente des âmes dans l'au-delà sur les vivants, hein, bon, on entend souvent ces choses de façon très simple. Hein, lorsque des personnes nous disent « Ah, ma mère, elle est partie auprès de Dieu, mais maintenant, elle veille sur moi. Hein. Je sais qu'elle est là, présente, elle veille sur moi. » Voilà, cette notion, donc, de les anciens, les parents, les ancêtres sont là toujours à l'œuvre dans nos vies. Mais si on y regarde bien, ben, ça veut dire que ces âmes restent en lien avec le monde du péché. Ce n'est pas une sinécure d'être une âme dans l'au-delà qui doit s'occuper encore des problèmes des membres de sa famille. Ce n'est pas une situation très enviable, finalement, cette pensée. C'est garder les âmes des défunts dans le problème du péché. Ils sont toujours confrontés au problème du péché, toujours pas résolu. Tandis que dans l'Évangile, ce ne peut plus être le cas pour les sanctifiés. Ils n'ont plus rien à voir avec la vie du monde pécheur. Ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la félicité. Ils sont avec Christ auprès du Père. Définitivement. Ça, c'est un aspect des choses. Et quant à ceux qui pensent en termes de réincarnation. Si on parle en termes de réincarnation, on parle en termes de mort qui intervient en permanence. S'il y a réincarnation, ça veut dire que l'homme n'est jamais quitte avec la mort. Jamais. Il se réincarne et paf, la mort intervient à nouveau. Il se réincarne et c'est à nouveau la mort. Et la mort est toujours à l'œuvre pendant des siècles, des millénaires, Non, la mort n'est pas vaincue, le problème de la mort n'est pas résolu. Tandis que l'Évangile donne accès immédiat à la vie divine. Le Seigneur a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ceux qui sont auprès de Dieu, parce qu'ils ont été rachetés par le sang de Christ, sont dans l'immortalité. D'ailleurs, Christ est mort, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, par la résurrection de Jésus, c'est la vie toute nouvelle et éternelle qui est communiquée aux croyants. Déjà dans sa mort, il y a la vie pour le croyant. Mais Dieu a, en plus, ressuscité son Fils. Il l'a rendu à la vie afin qu'il vive pour Dieu et que nous vivions nous aussi pour Dieu, avec Christ. C'est là qu'intervient l'action de l'Esprit. L'Esprit est donné aux croyants, justifiés par sa foi en Christ. L'Esprit est donné pour que la vie de Jésus l'investisse et le prépare à la gloire. Esprit de force, d'amour et de sagesse, esprit auquel il faut avoir recours pour oser persister dans l'annonce de l'Évangile, pour oser dire aux Juifs, aux païens, aux musulmans, que Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu pour eux, qu'ils sont sauvés s'ils croient que Christ est mort pour le péché et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La grâce est à recevoir par tous les pécheurs. Et comme nous sommes dans la chair, eh bien nous avons à continuer à combattre cette chair. Et la meilleure façon de la combattre, c'est de réactiver la confiance dans la promesse de Dieu, la vision de la victoire de Dieu à la croix du calvaire. Je vous relis cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, telle qu'on l'a reçue au début. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, c'est-à-dire la capacité justement d'annoncer l'Évangile, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance, je préfère la version à rien, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et je conclue avec les deux derniers versets. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, a été à l'œuvre pour nous éclairer, nous sauver, nous amener au pied de la croix, recevoir le pardon du péché. Que le même Saint-Esprit nous permette de garder le dépôt, de ne pas avoir honte de l'Évangile aujourd'hui. Amen.